Caribbean.
Le magazine qui explore,
qui voyage, qui découvre.
Nous voici aux alentours des années 400 ou 500 après Jésus-Christ, ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, voire le Très Haut Moyen-Âge. Nous sommes sur, disons, la place d'un village, sur laquelle travaillent différents artisans, comme un charpentier, un forgeron. En fait, nous sommes au Fou, le 21 juin 2015, pendant les Journées nationales d'archéologie. Logiquement, l'animation a lieu devant le Centre départemental d'archéologie. Et voici Sophie Cazadbec, responsable de mission archéologie au Conseil départemental du Finistère.
Donc en fait, on a un service d'archéologie de collectivité. Donc le Finistère, de longue date, a fait le choix justement de s'investir en matière d'archéologie. Donc le rôle des archéologues aujourd'hui, donc, c'est un petit peu de reconstituer la vie quotidienne donc des différentes cultures qui se sont succédées sur le territoire du Finistère à partir dans l'ensemble en fait, des traces matérielles et des vestiges qu'ils nous ont laissés. Donc notre activité en fait s'articule autour de trois grands axes. Le premier donc est bien évidemment la connaissance, donc c'est-à-dire vraiment le recensement de l'ensemble des sites ou indices de sites archéologiques que l'on connaît à l'échelle du Finistère, et parallèlement donc le lancement de programmes de recherche qui permet de compléter la connaissance que l'on a sur ces cultures, sur tel ou tel aspect en fait qui nous manquerait aujourd'hui.
Il y a deux façons d'obtenir des données archéologiques. Reprendre les fouilles qui ont déjà eu lieu, les fouilles anciennes, ou en mener de nouvelles.
Donc soit on intervient sur des sites que l'on a choisis expressément pour répondre à des problématiques scientifiques, sites qui ne sont pas forcément menacés par des aménagements, donc c'est ce qu'on appelle l'archéologie programmée, que l'on fait généralement pendant les vacances scolaires où on accueille en fait des étudiants, futurs archéologues que l'on forme, mais aussi des passionnés qui ont toujours rêvé de participer à des chantiers de fouilles.
Alors, par exemple, dans le Finistère, c'est où ?
Alors dans le Finistère, cet été en fait il y a 5 fouilles qui seront menées. Donc bah, la poursuite des fouilles à Ménez-Drégan, donc dans cette grotte remarquable.
Ménez-Drégan est un site préhistorique près de la pointe du Raz où on a retrouvé des traces de passage qui remontent à 500 000 ans.
Une dernière campagne de fouilles donc sur l'île de Ouessant.
Âge du fer, c'est ça ?
On est plutôt, oui, âge du fer et puis époque romaine, qui montre que Ouessant effectivement a été une escale importante dans le trafic maritime. Actuellement, donc, on est en train de mener en fait une opération sur la villa gallo-romaine du Pérénou à Plomelin, donc en lien avec les thermes en fait qui ont été aménagés en contrebas sur les rives de l'Odé, puisqu'on a un établissement rural romain complet à cet endroit. Plus au nord, donc, on ouvrira à partir de la mi-juillet donc une fouille sur le château de la Roche-Maurice, sur la partie dit Petit Château, dans la prolongation en fait, de la fouille du donjon qui a été mis en valeur. Et du côté de Plougassel, en fait, une fouille d'un abri sous roche, une escale de chasseurs à la fin de la préhistoire. Donc on est vraiment encore sur des peuples nomades.
Et donc vous avez fait exprès entre guillemets de choisir différentes périodes, enfin, c'est comme ça que vous décidez les fouilles programmées, ou c'est juste parce que dans le Finistère on a la chance d'avoir toutes les périodes?
Alors dans le Finistère on a la chance en fait d'avoir toutes les périodes qui sont représentées, donc on a des sites qui sont dans notre jargon en réserve archéologique sur lesquels on peut intervenir. Ensuite le choix des sites se fait donc d'une part en fonction des problématiques de la recherche qui peuvent être soit menées par nous, soit par d'autres acteurs de la recherche qui à un moment donné voilà, souhaitent intervenir dans le Finistère et dont on accompagne en fait l'intervention. Donc là c'est vrai qu'on a la chance d'avoir vraiment des interventions sur toutes les périodes chronologiques représentatives du Finistère.
En plus des fouilles programmées, il y a aussi les fouilles d'archéologie préventive qui, elles, sont menées avant la réalisation de chantiers de construction ou d'aménagement. Et elles sont souvent menées par l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ou directement par le service départemental d'archéologie. Mais une fois les données collectées, le service départemental d'archéologie doit remplir une autre mission, la médiation scientifique auprès du public.
Alors les opérations de médiation dépendent un petit peu des travaux scientifiques et des résultats que l'on a. Donc les opérations de médiation sont de différentes formes. Donc soit c'est sous forme de conférences où on restitue au public les résultats de recherche de plusieurs années ou les résultats d'une opération. Lorsque l'on fouille et qu'on peut ouvrir en fait les sites au public, on essaie au maximum en fait d'accueillir le public. Donc actuellement la fouille de Plomelin permet d'accueillir le public, donc toute personne qui veut nous rendre visite sur les heures de chantier peut venir nous voir en train de travailler puisque c'est un chantier qui le permet. Également, donc, on présente aussi du mobilier archéologique ou les envers du décor. Donc on s'appuie sur les grandes manifestations comme les journées de l'archéologie comme aujourd'hui ou les journées du patrimoine qui nous permet donc soit de présenter effectivement l'ensemble de nos méthodes ou techniques, soit voilà, les résultats comme ici en immersion totale. Donc on essaie donc plusieurs fois et autant que possible dans l'année de diffuser auprès du public nos résultats.
Alors aujourd'hui, immersion donc dans cette époque mal connue, transition entre l'époque romaine et le Moyen-Âge. Alors qu'est-ce que vous pouvez m'en dire sur ce qui concerne l'armorique?
C'est une période qui a plutôt l'image en fait de période sombre avec l'effondrement de l'Empire romain et puis l'arrivée effectivement de hordes de barbares. Il se trouve que l'archéologie en fait offre aujourd'hui une image qui est un peu plus nuancée et donc permet de modifier les clichés, les images qu'on a sur cette période. Et on s'aperçoit que pour ces siècles vraiment de transition que sont le 5e, 6e, 7e siècle, on a vraiment une période de transition où on voit vraiment une assimilation entre d'un côté la culture romaine qui est toujours présente, ou même si le système administratif en fait s'effondre, on a encore une organisation mais qui est plus réduite et plus ponctuelle, avec l'arrivée relativement importante en fait de peuples provenant de Grande-Bretagne insulaire, pareil sous la pression de mouvements de peuples de l'Est qui traversent la Manche et qui viennent s'installer ici. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a vraiment un mélange de cultures entre ces deux populations avec l'apparition quelque part voilà, d'une culture extrêmement mixte où on a des objets et puis une manière de vivre qui reste encore très romaine mais qui commence déjà à être teintée d'éléments anglo-saxons. Par exemple, voilà, quand vous regardez des soldats de cette époque-là, ils souhaitent voilà, justement intégrer l'armée romaine pour défendre contre des invasions. Donc on a une image à la fois presque de centurion romain, mais avec aussi quelques éléments qui sont purement nordiques. Donc on est vraiment sur voilà, une mixité culturelle.
Une répartition sur le territoire, donc plutôt rurale, c'est ça?
Donc ces populations se sont installées sur l'ensemble, au moins les Bretons qui ont migré depuis la Grande-Bretagne, donc se sont installés sur l'ensemble de la péninsule, donc à la fois sur la côte, mais aussi à l'intérieur des terres, donc se sont installés dans les agglomérations qui existaient, mais aussi ont permis de continuer à développer enfin, toute une exploitation rurale. Donc on les retrouve également à la campagne, soit dans un établissement ruraux antique, soit voilà, dans des villages ex nihilo dont on a trouvé quelques traces ça et là. Alors, comme on a une organisation administrative qui est déjà moins encadrée qu'à l'époque romaine, on a un resserrement en matière d'agglomération et puis d'organisation locale. Donc c'est vrai que ces très grandes agglomérations qui étaient maintenues par une importante administration tendent, j'allais dire, un petit peu à se réduire, mais on continue à habiter en ville. On assiste également à des changements culturels. Donc c'est vrai que la manière d'habiter à la romaine se modifie ponctuellement, et c'est aussi ce que l'on peut voir à la campagne, puisqu'on a une réoccupation notamment à la fois des villas romaines, mais l'établissement en fait de nouvelles fermes qui sont plutôt construites en terre et en bois, avec la création parfois ex nihilo de villages entiers qui seront voilà, de futures petites villes.
Et est-ce qu'il y a quand même des progrès techniques dans cette période?
Alors je ne parlais pas forcément en termes de progrès techniques. On voit d'un point de vue archéologique ce à quoi on assiste, c'est vraiment une mixité en fait entre différentes techniques, celles que l'on a en fait sur le continent, et ce que l'on voit déjà aussi en Angleterre, sachant qu'il y a une partie de l'Angleterre qui était déjà romanisée. Donc on a vraiment voilà, une mixité, et on continue, j'allais dire, presque vivre à la romaine avec un artisanat, poterie, forgeron, de tabletterie, ou encore un travail du bois qui est de très très grande qualité, puisque cette période-là, par la suite, va devenir en fait la période dite des Mérovingiens. Parmi les personnages que l'on connaît beaucoup, beaucoup mieux, j'allais dire, pour ces siècles, on a par exemple Clovis, et on note, j'allais dire, un artisanat notamment de métallurgie qui est extrêmement, extrêmement raffiné, qui est extrêmement complexe, où aujourd'hui, parfois, on aurait presque des difficultés à reproduire certains bijoux tant la technique est soignée.
Dans notre village du 5e siècle, reconstitué par l'association Letavia, le forgeron est d'ailleurs un professionnel.
Quelle température vous travaillez le fer?
Alors, le foyer en lui-même, ça tourne aux alentours de 1500 degrés dans les zones les plus chaudes. Et en fonction de ce qu'on fait en forge, on va travailler en gros entre 700 degrés et on peut aller jusqu'à 1400 degrés pour souder le fer. Mais de manière générale, vraiment quand on façonne la matière, quand on cherche juste à ramollir le métal de manière à pouvoir le mettre en forme par martelage sur une enclume, là on travaille autour de 1000 degrés. Quoi. Voilà, c'est un peu ça le repère, ça peut être plus chaud, travailler plus vite avec du fer, Ça peut être plutôt moins chaud avec de l'acier qui supporte moins les hautes températures. On cherche à avoir une finesse de grain pour des couteaux par exemple. Et là on essaie de ne pas travailler aussi chaud. Plutôt dans les 800 degrés, 900 degrés.
Donc on est une troupe de reconstitution historique. On travaille essentiellement sur les Bretons des 5e et 6e siècles.
Benjamin Francard ou encore Morcant Mapcomneil, qui est quant à lui le président de l'association de reconstitution historique Létavia.
Et un peu aussi sur d'autres périodes, bon, sur le haut Moyen-Âge en général en Bretagne, donc la période carolingienne aussi, 9e, 10e et un petit peu le 11e siècle, toujours en Bretagne.
Et pourquoi vous avez choisi cette période obscure, on peut dire?
C'est une période obscure, mais c'est une période qui est très très riche sur le plan historique, parce qu'il s'y passe énormément de choses. C'est la période qui voit vraiment une grande mutation, entre vraiment la jonction entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, avec la fin de l'Empire romain, et de cette chute de l'Empire vont naître un certain nombre de royaumes, avec l'installation des peuples comme les Francs, les Visigoths, et donc dans l'ouest de la péninsule armoricaine, les Bretons venus d'Outre-Manche.
Qu'est-ce que vous reconstituez?
Alors on s'articule plus particulièrement sur une troupe de guerriers donc bretons, mais organisés à la romaine à la fin du 5e siècle. Mais on cherche aussi à mettre d'autres aspects de la vie et de la société bretonne de cette période-là. Donc ça va passer par l'artisanat, donc avec un panel assez varié. Là, aujourd'hui, en plus, on a la chance d'avoir des amis, donc un céramiste et forgeron. En plus, dans la troupe, donc, on a Benjamin Simao qui fait de la lutherie. On a plusieurs membres qui s'intéressent au textile, d'autres au travail du bois, d'autres au travail du cuir. Il y a évidemment tout ce qui est vie quotidienne, la cuisine. Donc en plus, on ne se contente vraiment pas du coup de l'aspect martial de la société.
Et donc, vous avez bien dit reconstitution, c'est-à-dire qu'il y a un véritable souci scientifique, je suppose. Enfin, comment vous travaillez?
Il y a un gros travail de recherche au préalable. On essaie de coller au plus près des sources historiques dont on dispose.
Donc, lesquelles,
ouais. Sources-là, ça va être les textes, ça va être l'étude de l'iconographie, donc par exemple des mosaïques ou des enluminures. Et enfin, ça va être surtout tout ce qui est découvertes archéologiques, très variées, hein, donc, pour reconstituer tous les objets du quotidien, l'armement, les vêtements. Et on va chercher, si possible, des choses qu'on trouve au niveau régional. Et parfois, on peut être amené à aller chercher un petit peu plus loin, parce que, bien évidemment, les sources sont un petit peu éparses. Donc, on est obligé, pour avoir une vision vraiment globale, de proposer des hypothèses de travail de certaines choses, en allant chercher dans d'autres régions ou des périodes un tout petit peu antérieures, comme au 4e siècle, qui est plus riche au niveau archéologique, par exemple.
Et vous restituez régulièrement, enfin tous les combien? Comment ça se passe, votre restitution?
Là, pendant l'été, on se retrouve donc pour faire des animations en public à peu près une à deux fois par mois. Et sachant que hors saison, on travaille quasiment en continu sur notre équipement. On se voit assez régulièrement pour travailler sur le matériel, pour s'entraîner un petit peu au combat aussi. Et puis on échange très régulièrement en ligne, en contact assez constant.
Voici à présent Catuatal, alias Vincent Kerrier, qui travaille sur son banc d'âne, un support qu'il a conçu lui-même à partir de ses sources archéologiques et de quelques hypothèses.
Nous, on est parti du principe que, comme la plane, l'outil qui est utilisé, existait, le métier de tonnelier existait, le fabricant d'ardoise en bois existait. Du coup, on part du principe qu'ils avaient forcément un outil équivalent pour tenir les pièces de bois, pour les travailler. Parce qu'à partir du moment où on tient la plane à deux mains, forcément, il faut que la pièce de bois elle soit maintenue par d'autres moyens. Donc, il devait avoir une équivalence.
Ça, c'est vous qui l'avez fabriqué vous-même?
Oui.
Vous avez mis combien de temps pour qu'on ait une idée?
J'en ai aucune idée. C'est très longtemps.
Le bois là que vous avez utilisé pour construire votre... Comment vous dites? Redites-moi.
C'est un banc d'âne.
Banc? Comment ça s'écrit? Ouais.
B-A-N-C. Comme un banc, quoi.
Et d'âne, comme un âne?
Oui, parce qu'il y a deux formes. Il y a celle-là. Il y a une forme avec une pièce centrale. Et cette pièce centrale, de loin, pourrait ressembler à une tête de cheval ou d'âne. Et les quatre pieds du banc servent c'est les pattes.
Et donc la fonction essentielle, c'est d'écorcer, enfin d'enlever l'écorce, ou il y a d'autres fonctions?
C'est multiple. C'est, dans les fermes, on l'utilisait pour écorcer les manches d'outils, pour refabriquer au fur et à mesure de la casse les manches d'outils. Et par contre, pour faire les tonneaux, pour travailler les tavaillons, pour les dresser et avoir des tavaillons droits.
C'est quoi les tavaillons?
C'est les planches du tonneau. On utilisait avec ça. Pour les ardoises en bois, c'est pareil. Pour les redresser, elles sont, en fait, une ardoise en bois est fendue. Et pour la rendre droite et utilisable en ardoise, il faut la redresser à la plane. Et donc c'était pareil, utilisé avec ça.
D'accord, un petit établi en biais, quoi. Fin...
C'est ça, oui, oui. Ça, ça sert de mâchoire, en fin de compte. On bloque la pièce de bois avec les pieds. Parce que le fait de tirer avec l'outil pour écorcer, on oppose la force des bras aux jambes, ce qui permet de bloquer la pièce de bois, naturellement.
Et alors, vous avez des outils en plus, donc lesquels, par exemple?
Il y a des gouges, ciseaux à bois. En fait, il n'y a rien à changer. Rien à changer. Depuis les premiers outils fabriqués, on a les mêmes. Sauf que maintenant, tout est fabriqué, mécanisé, mais les outils n'ont absolument pas changé.
Et tous ces outils-là ont l'air d'avoir été faits maison, enfin, je me trompe?
C'est le forgeron qui est en face, qui les a fabriqués à partir de pièces archéologiques. Et donc, à la demande, je lui ai demandé de me faire tel outil, parce que j'en ai besoin pour travailler. Donc, on cherche des pièces, on a des planches de fouilles archéologiques, et on essaye de retrouver les outils qui pourraient me servir à ci ou à ça, et après, il les fabrique.
Et alors, au 5e siècle, c'est la chute de l'Empire romain, on peut considérer, qu'est-ce que faisait le menuisier la plupart du temps, à votre avis, enfin, d'après vos recherches?
Tout ce qui servait au quotidien, les manches d'outils, les plats en bois, tout le nécessaire pour vivre au quotidien. Après, s'il y a construction de maisons, il y a toute la charpente, parce que je pense qu'ils étaient polyvalents. Enfin, il y avait peut-être déjà des spécialisations. C'est à partir du 13e, 14e où ça se spécialise. C'est-à-dire qu'avant ça, tout le monde est charpentier. Charpentier avec des spécialisations. Et au niveau de la détermination, je dirais des bêtises, mais c'est à peu près 13e, 14e qu'il commence à y avoir des branches qui se séparent, où on va retrouver charpentier pur, menuisier, menuisier ébéniste, sculpteur, etc.
Et au 5e siècle, on ne parle pas encore d'ébénistes, en fait.
On est charpentier.
Charpentier, c'est ça le terme le plus ancien, quoi. C'est pas menuisier.
Joseph était charpentier.
Les femmes, eh bien, il faut bien constater qu'elles sont plutôt du côté des cuisines. Après tout, nous ne sommes qu'à la fin du 5e siècle. Voici Gwen Carrier dans une cuisine sous tente, mais bien équipée.
Je prépare à manger pour ce midi. Donc, dans le grand chaudron, du céleri avec des oignons, du céleri en branche, donc avec des oignons, du blé noir. Et dans le petit chaudron, du porc, avec des oignons aussi. Beaucoup de beurre et on a rajouté du miel pour donner un goût. Donc régulièrement, on transvase le bouillon de la viande dans les légumes pour mélanger les deux.
Est-ce qu'ils ont des noms, ces plats?
Non, c'est une sorte de poté.
Ouais, de potage aussi, oui. Parce qu'il y a pas mal d'eau, ça fait un peu soupe, quoi.
Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait un nom très précis.
Alors ça cuit combien de temps, en gros?
Là, ça fait bien 1h30 que c'est sur le feu. Je pense qu'il y en a encore pour une demi-heure. Donc là, ça va, ça a relativement cuit vite parce que ce qu'on a fait hier soir, ça a cuit pendant au moins 4 heures. Parce qu'on a essayé de faire ramollir le céleri qui ne ramollissait pas. C'était du céleri rave et ça ramollissait pas. Bon, on a fini par le manger en morceaux hein, parce qu'on voulait faire de la purée, mais ça n'a pas marché. Donc ça a bien cuit 4 heures hier soir. On a mangé vers 21h, 22h du coup. Mais là, ça va, c'est bientôt prêt.
Alors ça, ce sont des plats donc de début du Moyen-Âge, c'est ça, de cette époque-là, quoi. En gros, on a trouvé les traces des recettes.
Oui, je pense. Puis, c'est les mêmes légumes qu'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé, en fait.
Et alors, comme assaisonnement, qu'est-ce que vous utilisez?
On a mis des graines de moutarde, on a mis du miel. Hier, on avait les épices de la coriandre, de la menthe, de l'aneth, tout... Enfin, les classiques.
Les classiques de cette époque, parce qu'il n'y avait pas tout quand même. Donc, on connaissait pas quoi comme...
La pomme de terre, qui vient d'Amérique. Je ne sais pas.
La tomate, sans doute, des choses comme ça, quoi. Puis même en matière d'assaisonnement. Enfin, le sucre n'existait pas, évidemment. Non. C'était le miel, quoi.
Oui, voilà.
Et ils mettaient beaucoup de miel dans leurs plats, non?
Oui. Mmh. Ouais, c'était un des ingrédients les plus fréquents, ouais.
Parce qu'ils aimaient bien le salé sucré, en fait.
Oui, c'est très asiatique le fait de salé sucré, mais c'est aussi européen dans le temps. C'est arrivé tard le fait de séparer le sucré et le salé en fait. Ils ont toujours fait ça.
Et comme boisson, alors vous en avez peut-être sur la table, non? Ou vous en avez prévu, non? Qu'est-ce qu'on buvait à l'époque?
Alors de l'eau, du vin et de la bière, mais c'était différent. Le vin était très 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 corsé. Parce qu'il avait beaucoup voyagé, beaucoup fermenté. Donc en fait, et puis il mettait un peu n'importe quoi, tout et n'importe quoi dedans, des épices, tout ce qu'il trouvait en fait, pour adoucir, je pense. contrairement à la bière qui, elle, était moins fermentée que certaines aujourd'hui. Donc elles étaient fermentées normalement, comme les plus basses qu'on a aujourd'hui. Mais pas énormément parce qu'il n'y avait pas les mêmes méthodes de fermentation. Aujourd'hui, les bières, elles peuvent être fermentées 2 fois, 3 fois et à l'époque, on ne faisait pas. Donc elles étaient moins fortes que celles d'aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il y avait comme ustensile de cuisine? Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce que vous avez comme récipient, couvert, etc.?
Alors des chaudrons, je crois qu'ils sont en cuivre.
Alors ils sont suspendus à des chaînes, c'est ça? À crémaillère, je sais pas comment on dit, non?
Crémaillère, oui. Sur une crémaillère, exactement. Donc bah, il y a des poêles, des louches, enfin tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. On a même une louche passoire.
Pas de fourchette quand même?
Non, la fourchette est apparue au 15e siècle, au 16e siècle.
Votre vaisselle, essentiellement, elle est plutôt en bois, en fait. Hein.
Oui, essentiellement en bois, donc sauf pour les chaudrons et certaines cruches. On a une cruche en verre qui est très jolie et une cruche aussi en... Ben, je ne sais pas trop ce que c'est, en fait. Mais,
c'est un métal ou c'est une céramique?
Oui, en céramique. Mais oui, les saladiers sont surtout en bois. Mais en fait, les cruches en verre et en céramique, on en a parce que c'est ce qu'on a trouvé, mais c'était plus, c'était des gens plus aisés qui pouvaient avoir des... Ne serait-ce que par la forme de la cruche qui est assez sophistiquée. Je pense que les brocs que les gens moins aisés avaient n'étaient pas aussi sophistiqués.
Et on termine en musique avec un petit air de lyre joué par le barde de Letavia, Drostan. À la ville, c'est Benjamin Simao qui est luthier, mais pas n'importe quel luthier, puisqu'il est en fait facteur d'instruments anciens et il est membre de la troupe Letavia, donc en tant que barde.
Barde de l'Antiquité tardive, alors le statut du barde, en fait, il diffère du barde, en fait, de l'âge du fer, je pense, mais il est toujours, en fait, le garant de cette transmission orale. Donc il s'accompagne, en fait, avec sa lyre. Et donc voilà, les lyres que vous avez ici, donc je les joue au sein de la troupe. Je vais vous montrer. Alors, c'est vrai que traditionnellement, donc, la lyre se joue assis. Alors, je vais m'asseoir. En fait, je vais gratter donc avec mon plectrum toutes les cordes. Et avec ma main gauche, en fait, je vais la plaquer derrière. Je vais bloquer certaines cordes et laisser les autres sonner. Et du coup, je vais pouvoir créer des accords. Alors, ce modèle-ci, en fait, il a été retrouvé dans un contexte allemand, donc du 6e, 7e siècle après Christ à Trossingen en Allemagne. On a retrouvé la lyre, en fait, quasiment intacte. Et elle a été retrouvée, en fait, entièrement en érable.
Voilà. Et vous l'avez refaite en érable, du coup?
Voilà, c'est ça. Et celle-ci, en fait, elle a la particularité d'être gravée au couteau. Donc recto, surtout le recto, voilà.
Les dessins sont des dessins conformes à ce qu'on faisait à l'époque?
Alors oui, en fait, moi j'ai travaillé en fait avec le musée de Constance en Allemagne, qui m'a fourni en fait donc toutes les informations donc pour reproduire en fait cet instrument, donc les dimensions donc de l'instrument et effectivement donc tous les motifs en fait, voilà.
Alors c'est un petit peu entre ça fait penser à du scandinave un peu, non?
Oui, alors bah ça représente en fait tout un bestiaire effectivement, donc c'est quasiment que des entrelacs en fait, sauf donc cette partie donc de la face.
Là il y a des soldats, ouais.
Voilà, il y a des soldats en fait qui sont face et en fait derrière le chevalet ils tiennent une lance. Voilà.
Et les cordes sont en quoi?
Alors les cordes, aujourd'hui, effectivement, pour ce type de prestation, j'ai équipé en fait la lyre avec ce qu'on appelle en fait du nilgut. Donc c'est du nylon qui ressemble à s'y méprendre à du boyau. C'est-à-dire qu'effectivement, le boyau, ça bouge beaucoup en fait avec les variations hygrométriques et puis de température. Donc là, voilà, pour ce type de prestation, pour éviter d'avoir à réaccorder tous les 5 minutes en fait mon instrument, voilà, j'équipe mes lyres avec du nilgut. Mais c'est vrai qu'à l'époque, donc, on a pu utiliser donc du boyau de chèvre, de mouton, même de porc en fait pour les gros diamètres.
Et sinon, est-ce qu'on a une idée des morceaux qu'ils jouaient? Est-ce qu'ils avaient des partitions, par exemple?
Pour les périodes alto-médiévales, on déplore vraiment le caractère lacunaire hein, au niveau effectivement des fragments de musique et tout ça. Donc, on n'a pas beaucoup d'informations, malheureusement. Voilà. Tant au niveau donc, des techniques de jeu qu'effectivement de ce qu'ils pouvaient jouer, voilà, des mélodies. Voilà, interpréter effectivement ces époques-là, c'est vraiment engageur. Alors, je vais vous montrer donc une des techniques possibles. Donc, cette technique du jeu à l'accord. En grattant donc avec le plectrum toutes les cordes et avec la main gauche, donc en bloquant certaines cordes et en laissant les autres sonner, on va créer des accords. Voilà. On va pouvoir donc les enchaîner et donc du coup créer une mélodie.
Nous retrouverons Benjamin Simao dans un autre épisode de Ribine où il nous parlera plus longuement de ses instruments anciens. D'ici là, vous pouvez consulter le site internet de la radio pour retrouver d'autres informations sur l'association Letavia et ses membres ou sur le Centre départemental d'archéologie du Fou.